Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia.
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia.
Ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia.
Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. « Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna. Et il dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. » Versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, lorsqu'on vient à une Eucharistie, eh bien, nous faisons un acte de foi. Un acte de foi qui nous fait passer du réalisme du pain et du vin qui seront élevés tout à l'heure sur l'autel, à la fois au corps et au sang du Christ. C'est un grand mystère. Rien ne change apparemment et pourtant, Dieu vient jusqu'en nous faire sa demeure. Et ce corps prend sa pleine dimension par la somme des personnes que nous représentons ce matin. Je ne prendrai pas la prière eucharistique numéro 2, mais nous l'entendons parfois. Il est dit, humblement, nous te demandons, Père, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, c'est-à-dire une seule communauté, une seule famille, et c'est pour cela que nous avons plaisir à nous retrouver. Alors Jésus choisit le repas pour nous faire, pour laisser le signe de sa plus intime présence. Le repas, nous l'évoquons souvent, c'est d'abord le lieu où l'on refait ses forces. La nourriture et la boisson sont essentielles à notre vie. Mais le repas, c'est aussi le lieu de la rencontre, de la convivialité et de la fête. Il permet la rupture de nos activités en nous réunissant autour d'une table pour nous connaître et pour dialoguer. C'est ça tous les jours. Dans le repas, Jésus choisit du pain et du vin. Il aurait peut-être pu prendre d'autres choses. Il y a d'autres symboles que Jésus prend souvent pour les sacrements. Il y a l'huile, il y a l'eau, etc. Il choisit du pain et du vin pour symboliser sa présence. Le pain dans la culture locale, c'est l'élément de base à portée de tous, riche ou pauvre. C'est aussi le rappel de la manne que Dieu a envoyée aux Hébreux en errance dans le désert du Sinaï. cette substance nourricière qui recouvrait le camp au matin, eh bien, était un signe de Dieu et permettait au peuple de vivre en plein désert. Le vin, par contre, c'est un produit de luxe à l'époque de Jésus. C'est l'eau qui est l'élément ordinaire et vital de la boisson, mais le vin, c'est ce qui vient donner à la vie un air de fête, quelque chose en plus. Jésus va lui donner un sens encore plus fort en le comparant au sang. Et nous avons entendu des lettres, les deux textes tout à l'heure, eh bien, nous rappeler le poids du sang dans la culture juive. C'est un principe de vie pour les Juifs. Il est interdit de le consommer. C'est pourquoi ils mangent la viande cachère. Alors en demandant de boire son sang, Jésus se met en opposition, bien sûr, et il affirme qu'il est, avec le Père du ciel, créateur de la vie. Créateur de la vie. Et que boire ce vin consacré, c'est boire son sang, c'est accueillir en nous-mêmes la vie même de Dieu. Vous voyez, ce n'est plus le sang des sacrifices anciens versés pour apaiser Dieu ou pour faire quelque chose qui soit pour lui bienveillant. Non, le sang, c'est la vie. Et donc Jésus nous montre par cette communion au corps et au sang que cette vie circule en nous désormais. Si la vie de Dieu circule en nous, alors nous pouvons aimer à la manière de Dieu. Nous pourrons voir avec son propre regard et partager avec nos frères et sœurs l'amitié. La lecture de l'Exode et de la lettre aux Hébreux nous a donc plongé dans une culture que ne peuvent pas comprendre aujourd'hui beaucoup de gens, sauf les initiés qui ont lu la Bible et qui connaissent un peu ce parcours. Déjà, les contemporains du Christ étaient scandalisés. Ils avaient du mal à faire le saut spirituel des propos de Jésus, qui passe de choses très concrètes, n'est-ce pas, ces mises à mort, à quelque chose de très spirituel qui est le don de la vie. Et ceux qui sont proches de lui, et les pharisiens, vont dire « Mais comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger, son sang à boire? Est-ce que c'est possible ?» Alors nous ferons tout un chemin, bien sûr, et les premiers chrétiens vont faire ce passage, même si, vous le savez, on va les accuser de rites cannibales. Ils se réunissent le soir dans des souterrains et on ne sait pas bien ce qu'ils font. On a l'impression qu'ils mangent des corps et boivent du sang. Bon, voilà, donc les premiers chrétiens auront à expliquer ce geste de Jésus qui, pour un certain nombre d'entre nous, est encore quelque chose de difficile à comprendre. La présence, en effet, pour les catholiques, se fait dans ce mot étrange qu'on dit désormais dans le credo, la transsubstantiation. Voilà. Mais elle est, pour beaucoup d'autres chrétiens, symbolique, qui, donc à l'instar d'autres signes comme l'huile ou l'eau que j'évoquais tout à l'heure, manifeste la présence spirituelle du Christ. Il y a donc tout l'éventail des croyances entre l'hyper-réalisme et l'hyper-spiritualité, d'une certaine manière. Ça a été des combats extrêmement difficile, au Moyen-Âge notamment. Je pense que vous avez entendu parler de cette fameuse question « Quid sumit ?»« Sum, quid sumit ?»« Quis mut sumit ?» C'est la souris, mousse. Que fait la souris lorsqu'elle rentre dans le tabernacle et mange l'hostie? Est-ce qu'elle mange Jésus? Ou est-ce qu'elle mange une représentation de Jésus? Oui, il y a eu tout au long de l'histoire de l'Église des interprétations difficiles pour ce réalisme de l'Eucharistie. Alors on pourra en parler. Évidemment, c'est pas en 10 minutes qu'on peut dégager autant de théologie, mais si vous le souhaitez, un jour nous pourrons prendre le temps d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension même de cette Eucharistie. Je dirais que la scène où Jésus institue l'Eucharistie se situe juste avant la Passion, comme nous l'avons lu dans Saint Marc, et elle s'inscrit dans ce que nous appelons le sacrifice du Christ, qui plutôt que de fuir sa destinée ou de se battre avec ses adversaires, choisit, lui, le chemin de la non-violence, de l'amour et du don, de l'amour de don et de pardon. Voilà donc, on a une transformation. Jésus, ce dernier à être sacrifié, n'est pas sacrifié, pour rien. Il vient apaiser nos manières de rencontrer Dieu. On sait bien que la voie de l'amour est difficile. Les pères et mères de famille savent ce que l'amour leur coûte d'efforts et parfois de souffrances. Devant les difficultés du travail, du couple ou de l'éducation des enfants, eh bien, parfois, certains choisissent de déserter le foyer ou de faire usage de violence. Le sacrifice est positif, car c'est une force d'amour non violente qui pousse un parent à se priver de tout si son enfant est malade, affamé ou en danger. Voilà, c'est ça le sacrifice. C'est aussi cette force qui pousse un père à pardonner et à ouvrir ses bras à un adolescent difficile qui revient après 8 jours de fugue. Voyez, on n'est plus dans le sang, on est dans l'amour. C'est tout à fait autre chose. L'Eucharistie est donc le rappel du don du Christ en croix qui veut mettre fin à tous les sacrifices humains, tous les sacrifices d'animaux. Seul sacrifice que nous avons à faire, c'est de donner et de pardonner. Et c'est notre religion. Alors, il faudrait faire encore une fois beaucoup de théologie. Ce que je dis en quelques minutes et tout n'est pas décisif. Bien entendu, il faudrait aller beaucoup plus loin. Mais je vais quand même prendre le temps de survoler quelques questions de rite et de liturgie, parce qu'évidemment, la liturgie, depuis 20 siècles, est toujours un sujet extrêmement délicat. Et tout à l'heure, au début de la cérémonie, ça a été aussi le cas, mais je m'en excuse. Variété des rites. Cessons de faire de nos rites des motifs d'opposition inutiles. Vous savez, j'étais curé de Saint-Irénée pendant 6 ans, et j'étais donc invité aux messes de Fourvière. Messe de Fourvière assez classique, très belle. Mais il y avait aussi la communauté du Chemin Neuf, beaucoup, beaucoup de chants, beaucoup de démonstrations, très bien aussi. Il y avait la communauté catholique de rite byzantin, beaucoup d'encens, ça bouge tout le temps, très intéressant. Et puis il y avait aussi la communauté Saint-Pierre, de rite traditionnel, ce rite dans lequel j'ai grandi, où on communie sur la langue et où le prêtre est dos au peuple. Voilà. Tous ces rites, je les ai vécus pendant 6 ans avec beaucoup de bonheur, figurez-vous, et je ne vois pas pourquoi on se bagarre sur ce genre de choses. Je n'ai jamais été gêné par la diversité des rites et des symboles, l'essentiel étant la même foi au Christ présent dans le pain et le vin consacrés, dans toutes ces manières de vivre l'Eucharistie, et qui est reçue par des frères et des sœurs qui sont tous désireux de vivre de cet amour partagé. Donc attention de ne pas durcir les problèmes des rites, des paroles, d'un certain nombre de gestes que nous pouvons avoir ou que parfois nous n'avons pas. Deuxième point, c'est la place des jeunes. On entend dire que dans telle paroisse, il y a peu de jeunes, alors que dans la paroisse voisine, il y en a beaucoup. Alors bien sûr, si on est à Sainte-Blandine avec Glorious, ben, ça attire beaucoup de public. Boum, 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 ça va. Beaucoup de rythme. Et donc ça correspond sans doute à ce que certains vont aller voir ce soir. Je crois que Taylor Swift a fait une grande manifestation à Lyon. Alors évidemment, il y a une musique qui ressemble un peu, une musique liturgique, qui peut ressembler à cette musique de la jeunesse actuelle. Très bien, très bien, très bien. Mais si vous allez à Thésée, ben vous allez voir que c'est tout à fait autre chose. C'est pas du tout le même genre. Et pourtant, très curieusement, il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Mais c'est une autre musique. Et puis, si vous allez dans le 8e arrondissement de Lyon, je connais une chorale africaine qui intervient de temps en temps à la coopération missionnaire, qui est alors là éblouissante, mais ça applaudit tout le temps, ça danse sans arrêt, etc. On voit bien que, et là aussi il y a beaucoup de jeunes. Donc ne disons pas que c'est parce que c'est ici, ici ou ici que c'est meilleur parce qu'il y a des jeunes. Non, c'est là où les jeunes veulent se rassembler. N'oubliez pas qu'il y a un principe qui est tout à fait décisif, un principe sociologique. Les jeunes appellent les jeunes. Si donc les jeunes de Sainte-Foy, qui ont entre 15 et 35 ans, veulent prendre en main la liturgie de temps en temps, mais complètement, avec un style particulier, eh bien vous allez voir, ils seront ici nombreux. Troisième point que je voulais souligner, c'est qu'on entend dire qu'il n'y a pas assez de silence dans nos messes. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on applaudisse, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on échange un signe de paix. La messe n'est pas d'abord le lieu de la méditation personnelle ni du recueillement silencieux. Ça n'est pas son rôle. Il y a d'autres offices pour cela, comme l'adoration du Saint-Sacrement ou d'autres louanges, et on s'est réunis à d'autres moments. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est ce que je viens de dire avant en théologie, c'est un repas partagé et il faut donc qu'on se parle. Imaginez un repas de mariage en silence. Ben non, ça ne marcherait pas. Et donc la messe est le lieu de la rencontre, du partage, du dialogue et de la communion d'un peuple vivant. Alors bien sûr, on propose des temps de silence, notamment après la communion. Nous en prendrons un peu plus marqué aujourd'hui. Mais la messe doit rester le lieu de la convivialité, le lieu de l'annonce de la parole de Dieu, de son explication et de la communion, qui est un échange entre tous, jusqu'aux annonces finales, qui d'ailleurs devraient être beaucoup plus importantes, puisque c'est la vie de la communauté. Donc ne transformons pas la messe en un lieu de dévotion, même si ces lieux de dévotion, j'y participe aussi et je les aime. C'est pas du tout là, le problème n'est pas là. Mais le sacrement de l'Eucharistie, avec ce repas partagé entre frères, est tout à fait décisif. Dieu nous rassemble et nourrit nos âmes et nos cœurs pour nous envoyer ensuite, missa est, la messe, pour nous envoyer ensuite faire œuvre d'amour, comme l'enseigne Saint Jean Chrysostome, et je terminerai avec cette phrase de lui. Tu as goûté au corps du Seigneur, et tu ne reconnais pas ton frère qui est là. Tu déshonores cette table en ne jugeant pas digne ce frère que pourtant Dieu aussi invite à sa table. Si Dieu te libère de tes péchés et t'invite à son repas, sois donc pour ton frère plein de miséricorde et de bonté. C'est ça l'Eucharistie.